Maintenant, on va donner la parole à Christine Boulanger, que je salue, et qui est dessinatrice de talent. Vous voyez ses dessins derrière nous, et qui fait des portraits dans un esprit humaniste. Et d'ailleurs, elle va bientôt être exposée sur les grilles des Buttes Chaumont à Paris. Donc, je lui donne la parole. Elle va nous expliquer sa démarche et le sens de ses dessins.
En fait, mon boulot, ce n'est pas de dessiner, hein. Non, c'est pas du tout ça. En fait, c'est de créer la rencontre. Alors, merci pour la transition. C'est vraiment drôle, hein, parce que Chloé m'a proposé, parce que moi, je lui ai dit, mais j'aimerais bien venir à cette conférence, à ce débat, là, aujourd'hui en particulier. Et elle m'a dit, oui, bien sûr. Et puis, tiens, au fait, tu pourrais pas faire une intervention à un moment sur ce que tu fais. Oh. Donc, oui, bien volontiers. Et il se trouve que, vraiment, la dernière personne qui a parlé, M. Artini, mais j'ai noté plein de choses de ce que vous nous avez dites, apporte une transition toute trouvée sur quels sont les moyens, notamment pour lutter contre le racisme. Mais là non plus, moi, je ne lutte pas contre le racisme en particulier, je lutte plutôt sur tout ce qui nous empêche de vraiment nous rencontrer, de vraiment nous connaître, et en premier lieu, se connaître soi, les préjugés qu'on peut avoir sur soi-même. L'autocensure et tout ce qui nous bloque en fait pour mieux se connaître soi et mieux connaître les autres. Et bien sûr que finalement c'est une façon aussi de lutter contre le racisme, mais voilà, la première raison pour laquelle j'ai repris le dessin, parce que j'avais arrêté le dessin pendant 10 ans, c'était vraiment pour lutter contre le repli sur soi en général. Et je reprends des mots que j'ai entendus tout à l'heure, qui étaient aussi le fait finalement de travailler sur les valeurs humaines. C'est ça qui, à mon avis, effectivement, permet de contribuer à résoudre beaucoup de choses, en fait. Et en 2015, il y a eu, d'une part, les attaques terroristes en France, début et fin 2015. Et j'étais, moi, dans un groupe de conseil qui mettait en place, par ailleurs, un plan de licenciement économique. Et au bout de 30 ans d'existence, c'est ce qui peut arriver dans l'histoire d'une entreprise. Mais disons que l'ambiance n'était pas folle en 2015. Et ça m'a vraiment donné, en fait, envie de retrouver le contact avec le dessin pour remettre en avant ce qu'il y a de bien aussi. Voilà, noter comme un carnet de voyage ce qui se passe de bien aussi au quotidien. Et puis après, je me suis souvenue que pour le portrait, je me débrouillais pas mal parce que j'ai fait une école d'arts appliqués il y a maintenant un petit paquet d'années. Et donc, je me suis dit, OK, je vais me concentrer sur le portrait dessiné, parce que dessiner quelqu'un, c'est un super prétexte pour le rencontrer. Vous le dessinez, vous l'écoutez, puis la personne, en fait, avant de voir son dessin, ben, il y a un travail que vous allez faire. Et ça permet vraiment de créer une rencontre particulière avec la personne. Et ce qui m'intéresse, en plus, ce soir avec vous, c'est que les portraits que vous voyez derrière nous sont uniquement la partie dessinée. Donc, c'est la partie émergée de l'iceberg, un peu ce qu'on entendait tout à l'heure. Derrière, il y a des conversations qui sont d'habitude aussi affichées dans la rue ou dans les bureaux d'une entreprise également, parce que je travaille soit dans l'espace public, là où on habite, soit là où on travaille. Et donc, ce sont à chaque fois des portraits dessinés et racontés. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est de vous proposer des visages dont vous ne savez rien. Vous pouvez juste vous-même vous dire, ben, qu'est-ce qui me vient spontanément à l'esprit? Et ce qui nous vient spontanément à l'esprit, on n'en est pas tellement responsable, en fait. Tout ce qu'on a comme automatisme dans la façon d'aborder l'autre, au départ, on n'en est pas responsable. Un a priori positif ou négatif, on n'y peut pas grand-chose. L'important, c'est d'en avoir conscience, d'en avoir vraiment conscience. Et là où on est responsable, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces automatismes-là une fois qu'on les repère? Et ces visages-là, ce sont des personnes que je vais vous... Voilà, je vais leur donner la parole. Pour l'instant, c'est moi qui ai la parole, mais je vais leur donner la parole. Vous allez les rencontrer. J'ai juste envie de continuer aussi de vous resituer un petit peu comment j'arrive jusqu'à vous aujourd'hui. Donc, grâce à Chloé, notamment, uniquement grâce à Chloé, c'est qu'elle a vu des portraits dans la rue. À l'époque, en 2019, c'était la première fois que je faisais cette expérience de poser des portraits dans l'espace public et de constater que, finalement, 24 heures plus tard, ils étaient toujours là. Et puis, un mois plus tard, ils étaient toujours là. Et puis... Voilà, en fait, des portraits compris et bien accueillis, et je crois qu'il y a quelque chose avec le visage qui fait qu'on n'y touche pas. Il y a quelque chose de sacré avec le visage, et j'adore arriver par la légèreté du dessin, qui déjà, en soi, je pense, déconstruit quelque chose. Une photo ou un dessin, comme, en tout cas, un dessin adouci certains a priori qu'on va avoir sur quelqu'un. Voilà, je n'embellis pas les personnes. N'empêche que voilà, j'aime bien les montrer sous un certain angle, avec une certaine expression sur le visage. Et ce qui est déjà intéressant, c'est de voir comme le dessin permet d'adoucir certains a priori qu'on peut avoir sur des personnes sur lesquelles on ne s'arrêterait peut-être pas si on les voyait en photo. Et donc aujourd'hui, ce que j'ai créé, qui n'était pas du tout prévu comme une activité à part entière et qui est aujourd'hui mon activité à part entière, c'est au départ cette envie de reprendre le dessin comme outil de rencontre. Je l'ai baptisé visage d'en face parce que Christine Boulanger, ben, y en a des tonnes et que ça ne dit pas grand-chose. Donc je l'ai baptisé visage d'en face. Vous pouvez trouver visage d'en face sur Internet pour y trouver des portraits et notamment certains qui sont derrière. Mais encore une fois, je vous en lirai des extraits. Et cette démarche, elle est un énorme geste de reconnaissance pour des personnes qui sont soit dans des situations d'invisibilité, soit pas, en fait. Vous pouvez avoir des personnes qui sont déjà dans des positions où elles sont assez visibles, où elles ont l'habitude de communiquer, mais on va juste se découvrir différemment. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'écouter les personnes pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles sont et pas autre chose, et de les faire découvrir pour ce qu'elles sont et pas autre chose. Et visage d'en face, c'est une approche du portrait dessiné et raconté pour cultiver la curiosité, changer les regards, et là où on habite, là où on travaille. Et ce sont des expositions, des lectures à voix haute, que j'ai entendu des choses aussi sur... Encore une fois, ça aussi, c'est une façon de se rencontrer autrement. Et des ateliers où je fais notamment se dessiner mutuellement les personnes. Donc elles ne savent pas forcément qui elles sont, mais je commence par les faire se dessiner mutuellement. Et donc là, on est tous au même niveau. Il y a la notion d'égalité. Voilà, parce qu'on a tous dessiné quand on était petit, et souvent, après, on arrête de dessiner, et donc se remettre à dessiner l'autre, et petit à petit lâcher prise sur le résultat, mais juste s'occuper de qu'est-ce que je suis en train de vivre avec l'autre, ça permet de se remettre un peu au même niveau, et d'être dans une écoute pour voilà, sortir un petit peu de cette vitesse aussi dans laquelle on est prise, et c'est un des pièges d'ailleurs pour faire connaissance, pour se rencontrer, c'est d'aller très vite sur les automatismes, sur des réponses toutes faites. Et je pense que ce qui est important, c'est, avant de parler des autres, c'est savoir les écouter. Je pense qu'on peut parler, personnellement, je pense qu'on peut parler de tout le monde, qu'on soit noir ou blanc, on peut parler une blanche, de noir, de... Je trouve que si on sait écouter, on peut parler de tout le monde, en fait. Mais c'est vraiment, ça s'apprend, l'écoute. Voilà. Je vais vous lire un premier portrait, qui est donc l'homme qui est derrière moi avec une casquette. Sur un site d'orientation professionnelle, j'ai cliqué sport, bio, physique-chimie. J'ai trouvé opticien, préparateur physique, diététicien et kiné. Pour moi, c'était surtout le mec qui soignait les blessures sur le terrain de foot. J'ai lu le descriptif, ça m'a plu. Pour l'école de kinésithérapie, il fallait d'abord faire une première année de médecine ou une prépa au concours. Je n'avais pas envie de me casser la tête, j'étais encore dans le foot. Alors, je suis rentrée en prépa publique, les autres étant trop chers. Je découvre l'université où le prof ne te dit rien quand tu arrives en retard. Je me mets au fond, je prends à peine les notes, c'est la belle vie. En décembre, premier partiel, je finis 197e sur 200, la claque. Un redoublant avec qui j'avais fait connaissance me dit « Ok, t'as rien compris, c'est mieux que tu arrêtes tout de suite ». On a failli s'embrouiller. Baptiste me parlait en mode grand frère, alors qu'il avait un an de plus que moi. Et je pensais qu'il cherchait à me dégoûter. Mais il a continué. Il faut travailler, regarde. Je passe mon temps en bibliothèque. J'ai pas un jour off. Et il m'a tout expliqué. Je m'étais blessée plusieurs fois au foot. J'ai considéré ça comme un signe. Je suis allée à fond dans les études. J'ai suivi Baptiste partout. Ce qu'il faisait, je le faisais. Un copier-coller. Ce mec m'a sauvée. On est devenus potes. Malgré tout, j'avais pris trop de retard et j'ai dû faire une deuxième année. Dans le privé, cette fois, le public n'étant possible qu'un an. J'ai charbonné tout l'été pour rentrer des sous, ménage chez Disney la nuit et déménagement de cave le jour, avec les rats, les cartons imbibés d'eau, les odeurs indescriptibles. Tout le reste de l'année, j'étais à la bibliothèque Beaubourg, même le jour de l'an, que je ne ratais jamais d'habitude avec les potes. Parfois, j'ai eu des baisses de motivation. En prépa, je découvrais un autre monde. J'étais le seul rebeu, le seul des quartiers populaires. Les footeux étaient rares. C'était plutôt des rugbymen, des tennismen, des fils de médecins, de kinés, venus d'HEC, de l'école des mines. Je pensais, qu'est-ce que je fous là ? Il m'est arrivé de pleurer. Je ne me sentais pas à l'écart, non, je me sentais différent. Je me demandais si j'allais réussir. Et je rate encore le concours. J'ai failli tout plaquer. Mais je me suis souvenue que ma deuxième année de terminale, j'avais fini par réussir. Là, ce n'était pas totalement pareil, mais j'ai quand même tenté une troisième fois. Quand je suis enfin rentrée en école de kiné, ça a été un des plus beaux jours de ma vie. Je suis dure quand je parle aux petits, parce que je sais ce qui les attend s'ils continuent dans une certaine voie. Parfois, ils seront aussi victimes de leur faciès. Ça m'est arrivé avec un prof qui m'a mis une note injustifiée et déterminante. Heureusement, la responsable de formation a pu m'aider, car il y avait des preuves. Mais là, j'ai compris que tu peux tout perdre en 10 secondes si tu n'as pas ce recul de desserrer le poing. Voilà, donc c'est Yacine. Alors Yacine, il faut savoir qu'il a été OK pour... Moi, je veux dire, la confiance qu'on me donne, c'est quelque chose qui m'honore. Il a été OK pour qu'on affiche son portrait dans, notamment, son quartier. Ce soir, il n'est pas au courant que je le partage avec vous, parce que je n'ai pas eu le temps de lui en parler, mais je sais que ça sera OK. D'habitude, je préviens. Enfin, je sais que ça sera OK. Il en sera vraiment honoré, d'ailleurs. Et je voulais vous dire, voilà, un homme qui raconte ça, qui notamment dit, et on ne s'étale pas dessus, qui dit « j'ai pleuré ». Bon, c'est une façon de dire « pourquoi pas ?» Voilà, pour d'autres, c'est... Voilà, c'est une façon de dire « on passe par des périodes difficiles ». Et ça peut être lié au fait qu'on vient de quelque chose qui n'a rien à voir avec ce vers quoi on tend. Ça peut être dur, mais on peut y arriver. C'est très simple, mais il faut continuer de le dire, il faut le marteler. Et donc lui a accepté, je voulais juste vous faire cette parenthèse, de partager ça dans son propre quartier. On peut retrouver des portraits sur le site de Visage d'en face. Ce que j'ai juste envie de vous dire, voilà, c'est qu'à mon avis, si on apprend à écouter, ce n'est pas la seule solution magique, je ne prétends pas, mais il me semble qu'une des réponses dans la façon de passer ces barrières, des préjugés, c'est de réapprendre à nous écouter. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont des selfies, il y a beaucoup de portraits, photos, on parle beaucoup de soi sur les réseaux sociaux, mais en fait, c'est à travers le regard des autres qu'on apprend sur soi. Donc je pense qu'il faut se redonner des occasions en rencontrant les autres dans certaines circonstances. Il faut se recréer des occasions de discuter de manière sereine parce que ce n'est pas tout seul qu'on apprend sur soi en fait. C'est dans la rencontre avec l'autre qu'on apprend sur soi. Et quelqu'un qui est différent, ça ne m'intéresse pas moi. Je n'ai rien à apprendre de moi-même si vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas par moi que je vais apprendre quelque chose. C'est parce que je rencontre les autres que je découvre qui je suis. Vous voyez ? Donc ça n'a pas de sens d'être juste entre soi. Alors là je sais que ce soir je prêche plutôt des convaincus. Mais voilà, j'ai envie de dire juste, je pense qu'une partie de la réponse, c'est créer des environnements où on réapprend, non pas juste à parler de soi, mais à écouter l'autre pour mieux parler de lui. Et je pense que tout le monde peut parler de l'autre à partir du moment où on sait écouter. Je pense que c'est quelque chose qui est à travailler. Je voulais vous dire, pardon, Adama, il est éboueur. Et c'est quelqu'un de très sage, avec un humour de dingue. Et Syra, elle est journaliste. Et elle dit, je ne pensais pas qu'il était possible d'être journaliste, parce que je n'avais jamais vu de femme noire journaliste. Elle ne dit pas que ça. Elle est journaliste spécialisée dans le basket. Maintenant, elle est à Dakar. Elle a longtemps vécu à Paris. Et elle est devenue journaliste contre toute attente. Elle était ingénieure. Et elle se savait matheuse, mais pas du tout littéraire. Et elle s'est découverte, encore une fois, grâce au regard des autres, notamment une personne très connue dans le monde du basket, le fait qu'elle s'est aperçue qu'elle était en fait très respectée pour son travail de journaliste dans le monde du basket, alors qu'elle n'était pas journaliste de formation.